Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Au fil des bobines sur Studio ZEF 91.1 FM, l'émission de cinéphiles. Je suis content aujourd'hui d'avoir avec moi Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Colin.
Aujourd'hui, on va parler de deux films. La première séance sera vendredi à 18h. Donc ce sera Animal de Sophia Exarchou. Et ensuite, on parlera d'un second film, un film de patrimoine. Et là, ceux qui... écoutent l'émission et qui écoutent depuis le début l'émission reconnaîtront que le générique que je mettais à chaque début d'émission en fait appartient au film dont on va parler après, qui est en fait mon film préféré, donc je suis très content qu'on puisse le présenter. C'est Le Limier de Joseph L. Mankiewicz, sorti en 1972, qui est le dernier film de son réalisateur avec Michael Caine et Laurence Olivier. Donc voilà, on parlera de ces deux films là très différents l'un et l'autre, de deux époques différentes, et donc voilà, On a du boulot.
We are expecting all of you on this beautiful hotel.
Animateurs, animateurs από εδώ.
Από εδώ, πιο παλιά, Ικάλια.
So check out the brothers and sisters. You order, I dance.
You're about to put your senses to the utmost limit.
You order, I dance. Tell us what do you want, and I'll dance. Jukebox, jukebox. I'm a jukebox.
Είδα σαν ύπνο ένα όνειρο. Ήμουν πάνω στη σκηνή, αλλά η σκηνή ήταν στο σπίτι μου.
Βλέπω καν όνειρα. Κοιμάμαι και τίποτα και μόνο.
Et on va parler tout de suite de Animal de Sophia Exarchou, un film grec donc qu'on a vu tous les deux, mais je vais surtout laisser Jean-Claude en parler parce qu'en plus toi tu avais vu le film précédent de la réalisatrice. Mm-hmm. donc tu peux encore mieux en parler parce que tu m'as en off, on a un peu parlé, tu m'as dit qu'il y avait des choses en commun dans les deux films, et donc est-ce que tu peux un peu me présenter le film, Jean-Claude?
Oui, alors donc effectivement Sophia Exarchou, c'est une cinéaste grecque. Moi je l'avais découvert en 2016 sur son premier film qui s'appelle Park et qui décrivait l'errance d'une bande d'ados dans l'ancien village olympique d'Athènes, et on voyait justement à travers une peinture très réaliste comment après les lumières des Jeux olympiques à Athènes, en fait on se retrouve avec des ruines, une piscine olympique de 50 mètres de long vidée de toute son eau, et dans lesquelles les adolescents s'ennuient, et puis c'était quand même ce village olympique quelque part le symbole d'une Grèce économiquement ruinée. Et moi j'ai trouvé ce film très intéressant, et c'est des films exigeants que nous fait cette réalisatrice. Et dans le film dont on va parler aujourd'hui, Animal, en fait on retrouve l'actrice principale de Park, Dimitra Vlagopoulou, donc c'est pas un nom facile à prononcer, qui est vraiment une actrice absolument remarquable.
Du coup, alors, pour remettre un peu en contexte le film, ça parle justement de cette jeune femme qui est danseuse sur une île grecque, on va dire, très festive, très ambiance spring break, on va dire, un peu dans son ambiance, et sur lequel on va voir qu'il va y avoir certaines disillusions en même temps que pour le personnage, que pour le spectateur. Ouais, est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus?
Oui, effectivement, je pense qu'effectivement, Sophia Xarchus, si on pouvait lui donner un titre, ça serait effectivement la cinéaste, la désillusion, en tout cas sur ces deux films. Là, on suit une bande d'animateurs dans ce qu'on appelle des hôtels all-inclusive, c'est-à-dire que tout est compris, la nourriture, le logement et surtout les animations. J'ai surtout les animations parce qu'effectivement, on va faire connaissance avec un groupe d'animateurs et d'animatrices et ils viennent beaucoup des pays de l'Est. Ils ne parlent pas forcément tous la même langue, mais bon, il y a à travers le métier d'animation, il y a une certaine cohérence qui se fait dans le groupe. Et on va voir en fait que sous les paillettes, il y a aussi une souffrance de ces animateurs qui sont tenus chaque jour de faire tout leur possible pour amuser un public. Alors là, on est sur un public de touristes de classe plutôt populaire, middle class, inférieur. C'est pas du tout Club Med ou des grands hôtels de luxe, mais on va voir comment donc ce groupe de danseurs, d'animateurs, d'animatrices va s'épuiser à vouloir rendre la fête nocturne régulièrement, chaque jour, mois après mois, puisque leur travail va commencer au printemps et se terminera à la fin de l'été, quoi. Mmh.
Et ouais, alors moi, ce qui m'a un peu, on en parlait aussi un petit peu avant, ce qui m'a un peu frappé dans le film et dans la réalisation de Sophia Xarchus, c'est qu'elle fait vraiment pas de concession. Il y a quelque chose de très cru dans la façon dont elle filme les choses et très cru dans la façon dont elle filme des choses qui dont un peu dans l'esprit des gens est censé quelque chose de festif, quelque chose qui pourrait être un peu aussi vu comme quelque chose d'érotique parce que la place du sexe est quand même assez importante dans le film. Et finalement, tout ça est filmé avec une certaine froideur, une certaine presque un peu cruauté.
Oui, une certaine distanciation aussi. Ouais. Alors c'est vrai que ça commence doucement, parce que la première musique qu'on entend, c'est du Marvin Gaye, moi que j'adore, ouais. Marvin Gaye, ouais. Avec une danse assez langoureuse. Et puis après, en fait, ça va prendre beaucoup plus de rythme avec une chanson qu'on va voir l'animatrice Katia chanter plusieurs fois durant le film, qui s'appelle Yes, Sir, I Can Boogie. Donc c'est un tube des années 70 d'un chanteur qui s'appelle Baccarat. Mais oui, effectivement, la réalisatrice, elle ne veut pas du tout nous présenter un monde qui fait envie, en tout cas. C'est derrière les paillettes, il y a la souffrance des corps. On verra plusieurs fois l'actrice principale sous la douche et on la verra effectivement se masser le corps. On verra ce corps qui souffre, on verra ses bleus, on verra ses difficultés à se mouvoir après avoir fait une saison entière de danse et de contorsion. Mmh.
Oui, c'est... Et justement, il y a un peu des films comme ça qui, en ce moment, qui parlent un peu de ce... C'est un peu cette désillusion de la fête, un peu quelque part. On avait présenté A How to Have Sex il y a quelques mois déjà, de Lila Anna qui... non, n'importe quoi. On avait présenté A How to Have Sex il y a quelques mois déjà. Et on parlait justement qu'on trouvait qu'il y avait un peu des thématiques en commun sur cette façon de montrer un peu des ambiances de fête de façon... très désillusoire, quoi. Et tu me disais à juste titre que là, A How to Have Sex parlait de la jeunesse, mais là, quelque part, en fait, on parle plutôt d'une catégorie de femmes un peu plus mûre, en fait, un peu plus âgée, on va dire. Oui. Alors, pas énormément plus, mais on n'est pas sur l'adolescence, là, on est sur, contrairement à How to Have Sex.
Sur l'âge adulte, voilà, des pères et mères de famille, c'est ça, de toute façon. Voilà. Mais oui, par contre, A How to Have Sex, c'est un film, quand même, qui montre la sexualité du côté d'une jeunesse qui va être complètement désillusionnée par rapport à ce qu'elle espérait au départ. Alors que là, on est vraiment du côté des gens de l'autre côté, oui, les gens qui animent. Donc là, le regard, le point de vue est complètement différent. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans Animal, c'est à un moment, il y a une réplique de l'héroïne principale qui dit « Moi, j'ai fait ce métier parce que danser sur scène, c'était vraiment ce qui m'a fait rêver toute mon enfance. Et puis maintenant que je suis adulte et puis que finalement, quelque part, j'ai réalisé mon rêve puisque je monte sur scène. Oui. » Et les spectacles sont loin d'être nuls. Il y a certains spectacles, moi, personnellement, que j'ai regardé, que j'ai trouvé bien fait. Mais elle dit « Je ne rêve plus à rien. » Et ça, c'est terrible, quoi, cette désillusion totale. Et on la voit aussi, cette désillusion, à travers, en fait, il y a trois personnages féminins qui émergent un petit peu à travers la troupe. C'est une petite fille, hein, qu'on voit. Et quelque part, moi, je me dis, c'est aussi la création de la part de la réalisatrice de ce qu'a pu être l'héroïne principale quand elle était enfant. Et puis, il y a la jeune aussi de 18 ans qui arrive, qui est très, très triste au départ, qui va s'épanouir doucement. Enfin, on sent aussi qu'il y a certains personnages qui ont des souffrances qui sont tues. On ne dira pas d'où ça vient. Mais pour elle, vers ses 18 ans, ça permettra à cette jeune fille, quand même, Maria, de s'épanouir quelque part quand même, quoi, de trouver des relations sociales au sein de la troupe, même avec certains estivants qui vont lui permettre de sortir de sa coquille, en tout cas. Donc, c'est pas un film complètement noir, complètement négatif,
non,
mais voilà, c'est un film quand même qui est assez réaliste sur la dureté, en tout cas, de ce métier.
Oui, et moi, on parlait des illusions à juste titre, parce que moi, je trouve que c'est présent presque peut-être pas tous les plans, mais c'est présent dans énormément de plans de la façon dont elle le montre, et c'est vrai que des fois c'est assez intelligent, je trouve, sur certains plans et certaines scènes. Moi, je pense à deux scènes en particulier, genre une scène au début du film où on les voit se préparer et en fait elles rembourrent, elles ont tout un truc pour rembourrer en fait leur poitrine, et je trouve il y a tout un truc qui dit là-dessus sur une illusion qu'on veut montrer en fait d'elle-même. Elle se montre pas vraiment elle-même, il y a un personnage qu'elle joue quelque part.
Oui, il y a du déguisement, il faut rentrer dans le fantasme. C'est des estivants,
exactement.
Hein, les estivants, eux, ce qu'ils veulent voir c'est le corps parfait, le plus parfait possible, le plus érotisé possible. Et puis pour ça il faut aussi se déguiser, ce serait des photos, on ferait des touches images pour faire des corps parfaits. Bon, là, on rajoute effectivement quelques artifices dans le soutien-gorge pour faire croire qu'on a une poitrine opulente et puis faire rêver les touristes.
Ouais, et puis
c'est de l'amour.
C'est ça. Et puis l'autre scène que je trouve, il y a une certaine violence dans cette scène, c'est lors d'une soirée mousse. Et à un moment donné, elle danse et le personnage tombe et s'écorche. Avec du verre, le genou, tout ça. Et même si ça paraît pas forcément très grave à voir, mais il y a une gravité qui est montrée, je trouve, dans la mise en scène, qui pour moi illustre la désillusion complète du personnage, qui, à mon sens, commence un peu là-dedans dans le film. Bon, je dévoile peut-être un peu trop, mais voilà, il y a des trucs intéressants que j'ai trouvé à plusieurs moments sur ce principe de désillusion.
Oui, et puis on sent aussi certainement cette fragilité économique de ces animateurs, et que quoi qu'il arrive, the show must go on, quoi. Il faut
Exactement.
Que le spectacle continue. On n'a pas le choix parce que il faut aussi remplir l'assiette pour manger le soir, et donc on a besoin de cet argent, et il faut le gagner sur les 5-6 mois de cette période estivale à rallonge. Et voilà, donc on n'a pas le choix. Et puis je pense que dans ces métiers-là aussi, on vieillit vite, quoi. Que ce n'est pas un métier qu'on pourra faire de façon éternelle jusqu'à une retraite à 64 ans, en tout cas, c'est sûr. Donc, il faut y aller à fond la caisse, quoi.
Oui, tout à fait. Et je trouve que certaines choses qui sont bien montrées dans le film là-dessus. Je pense qu'on a fini avec Animal.
Encore une fois, c'est un film, disons-le, exigeant, mais c'est un film vraiment qui vaut la peine d'être vu, parce que je pense que c'est quand même assez rare de voir ce point de vue du côté des animateurs. On a une jeune femme, elle est vraiment cette actrice, elle est vraiment merveilleuse, elle est vraiment fantastique. Et je pense que c'est une façon de voir aussi la violence d'un monde capitaliste et comment il est capable de dissimuler ça sous des attraits beaucoup plus plaisant, mais pas pour ceux en tout cas qui ont ces rôles-là.
Exactement. Je pense qu'on va on va enchaîner sur le second film, qui était un film un peu plus ancien, qui date un petit peu, mais qui reste un peu une actualité pour moi, à mon sens, parce que c'est Le Limier de Joseph Mankiewicz.
I think you're expecting me.
I understand you want to marry my wife.
Once upon a time, my dear Milo, there was an Englishman called Andrew White. His accountants advised him to put a considerable part of his money, some 250,000 pounds, into jewelry. I want you to steal that jewelry.
My new manuscript.
We're past pretending now. Very funny.
You come here and announce your intention to steal away my wife.
Ready? Stand by for the countdown. Five.
A four. A three. A two.
Please.
A one. A blast off.
Je l'ai précisé en début d'émission, voilà, que c'est personnellement c'est mon film de chevet, je le revois très souvent, et c'est un film, c'est un peu une nouveauté, une actualité, parce que c'est un film qui était pas simple à trouver, en tout cas dans la filmographie de Joseph Mankiewicz, ça fait partie des films qui n'étaient pas encore évidents à trouver parce qu'il n'a pas eu, il n'avait pas eu de réédition DVD et Blu-ray pendant longtemps, et pas de ressortie salle surtout pendant, c'est sa première ressortie salle en fait depuis sa date de sortie officielle. Une nouvelle, quand je dis ressortie salle, c'est vraiment une nouvelle sortie nationale, hein, ce qui peut arriver que certains cinémas peuvent le projeter, mais qu'il est vraiment une nouvelle sortie nationale, c'est la première fois depuis sa sortie, et il a eu il y a quelques mois, au mois d'octobre, une réédition DVD et Blu-ray. Il y a toute une nouveauté sur la ressortie du film Le Limier. Je suis excité comme un enfant là-dessus parce que vraiment je suis très très content de voir le film revivre. Et donc à Cinéphile on en avait parlé et quand j'ai dit j'aimerais bien programmer Le Limier, on était plusieurs à Cinéphile, dont toi Jean-Claude, à tout de suite avoir eu des flashs du film et dire ah oui effectivement il faut montrer ce film quoi.
J'ai vu effectivement dans les cahiers du cinéma et dans Positif qu'on pouvait maintenant acheter le DVD de Joseph Mankiewicz, Le Limier. Donc aussitôt, là, c'était un flash. Il faut absolument que je me procure ça. Puis j'ai vu que la bibliothèque Abbé Grégoire l'ont acheté.
Oui.
Donc ça y est, moi, il est déjà réservé. J'attends mon tour. Mais j'irai le voir quand même au cinéma parce que c'est un film que j'ai dû voir déjà deux fois. Une fois, c'est sûr. Et qui m'a marqué vraiment à vie parce qu'effectivement, je crois que des objets comme ça, cinématographique, on n'en voit pas tous les jours. Alors Mankiewicz, bien sûr, c'est un immense réalisateur.
Oui.
Hein. On le connaît surtout à travers son film Cléopâtre, hein, qui a été un film qui a quand même réussi à ruiner tout un studio tellement il a été coûteux. Ça a été toute une épopée pour la réalisation de ce film. Et Mankiewicz en était sorti complètement épuisé. Et puis il s'est dit, moi, plus jamais, oui, je referai de film. Ou alors, si j'en refais un, je prends deux acteurs, je les mets dans une cabine téléphonique et on fait un film avec ça. Eh bien, ça, en fait, ça résume Le Limier.
Exactement.
Alors, si je dis ça, personne ne va aller au cinéma le voir. Ça serait quand même dommage parce qu'en fait, c'est un peu exagéré. Mais des acteurs, il vient y avoir deux.
Ouais.
En fait, il y en a six qui seront marqués au générique, mais ça, c'est une farce pour nous troubler, parce que quand on va voir le film, il y a plein de choses qu'on voit pas à la première vision. C'est très bien de pas le voir.
Faut pas trop en dire, attention. Oui. Mais voilà.
De toute façon, je pourrais pas tout dire tellement le film est riche.
Oui, hein. Oui, tout à fait.
Mais donc deux acteurs absolument formidables sur un huis clos, parce qu'en fait, ça va s'étirer d'une pièce de théâtre, hein, qui a eu un succès pareil, absolument fou. C'est Anthony Schaeffer, qui est aussi scénariste du Limier, qui a donc réalisé cette pièce. Elle a été jouée quand même presque 2500 fois en Grande-Bretagne, plus de 2000 fois à Broadway. Donc ça a été une pièce qui a eu un succès absolument fou. Et Mankiewicz allait voir cette pièce avec sa femme. Il était enthousiasmé et s'est dit, non, moi vraiment, il faut que j'en fasse un film malgré ce que j'ai pu dire après, oui, Cléopâtre. Bon, entre Cléopâtre et puis Le Limier, il a quand même réalisé deux films.
Oui, c'est pas tellement film après. Oui.
Voilà, Guépier pour Trois Abeilles, ouais, et puis Le Reptile, qui sont sur le western,
ouais.
Mais même si j'allais pas dire qu'on peut oublier ces films-là, mais quand on voit Le Limier, ça c'est vraiment son chef-d'œuvre,
ouais,
c'est vraiment pour moi c'est son meilleur film, le meilleur film d'un immense réalisateur.
Alors moi c'est mon film préféré de lui. Après il a pléthore de chefs-d'œuvre. Hein. On t'a cité Cléopâtre, mais il y a All About Eve qui s'appelle seulement Eve en France, qui est un, regardez-le, c'est vraiment une claque, c'est un grand film aussi, c'est un film aussi qui a inspiré plein de films après Eve, notamment je dirais Opening Night de John Cassavetes jusqu'à Tout sur ma mère de Pedro Almodovar. Enfin c'est des films qui ont énormément inspiré de cinéastes après, et Mankiewicz, moi je trouve, alors même si quand même, je dis pas qu'il l'oubliait, je n'irai pas jusque-là, mais quand même, quand on cite les cinéastes de l'âge d'or, je trouve que Mankiewicz n'est pas le réalisateur le plus cité. Tu vois, on va citer Frank Capra, on va citer Georges Cukor, mais je trouve que Mankiewicz n'est pas forcément celui qui est cité le plus directement. Je trouve que c'est en train de bouger au fur et à mesure. De plus en plus, ces films, il y a de plus en plus de ressorties de ces films. Il y a eu The Ghost with Mrs. Muir.
On l'a vu au rendez-vous de l'histoire.
Voilà.
C'est magnifique. Pareil, je l'avais vu une première fois, mais je ne l'ai pas vu sur grand écran. Je l'ai vu sur grand écran.
C'est magnifique aussi.
Il y a une poésie dans ce film.
Ouais, ouais.
Alors que quand on raconte l'histoire, on se dit, c'est facile.
Oui, ça peut être déjà fait.
Mais c'est génial. Enfin, il y a des émotions qui passent à ce film. C'est d'une beauté. Enfin, il y a la patte d'un artiste, quoi. C'est évident. Quoi.
Exactement. Et ces films ressortent de la ressortie de The Ghost with Mrs. Weir. Elle est pas très vieille. Elle est assez récente. Et donc il y a plus en plus de films qui ressortent. Je sais que Chaîne Conjugale avait été aussi ressorti. Enfin voilà. Plongez-vous dans la filmographie de Joseph Mankiewicz. Vous allez voir, c'est passionnant. C'est un réal qui fait plein de qui réalise beaucoup des films très différents des uns des autres. Et tu parlais de Cléopâtre, justement, si je peux rajouter. Cléopâtre, en plus d'avoir... Il a mis la fin à un genre quasiment, le péplum, qui après se fera beaucoup plus rare, alors que c'était un peu une mode là-dessus, et il entraînera un peu le début du nouvel Hollywood, en fait, parce que c'était un peu la fin de ces espèces de grosses productions de Hollywood qui avaient un peu les yeux plus gros que le ventre. C'est rigolo parce qu'on peut un peu faire des rapprochements avec la situation d'Hollywood aujourd'hui, mais il y a des trucs qui ressemblent, et l'échec cuisant commercial de Cléopâtre, parce que c'était un échec commercial, parce que le film a coûté très très cher, va amener à ça. Donc Cléopâtre reste aussi un film important et reste aussi un grand film. Mais bon, revenons à nos moutons, revenons du coup à son dernier film, Le Limier, et quel dernier film, hein, je vais essayer de résumer un peu l'histoire sans trop en dire. C'est toujours un exercice un peu périlleux pour moi de résumer Le Limier aux gens qui ne l'ont pas encore vu. C'est l'histoire de Milo Tindle, qui est un qui est un jeune coiffeur, voilà, et, immigré italien, qui s'appelle Milo Tindolini, voilà, dans son nom d'origine, qui en fait, il y a un riche propriétaire, un riche écrivain qui s'appelle Andrew Wack, qui va l'inviter dans sa demeure parce qu'en fait, Milo Tindall est l'amant de sa femme. Voilà. Et lui est tout à fait au courant, mais il lui demande un rendez-vous là-dessus. Et à partir de là, il va y avoir une espèce de jeu de chat et de la souris entre l'un et deux et savoir qui piège qui au fur et à mesure. Et voilà, j'en dis pas plus, que le film est rempli de rebondissements sans cesse, qu'on sait, voilà, on sait plus vraiment où donner de la tête. Le film est vraiment passionnant là-dessus, donc je ne veux pas en dire plus. Et voilà, je voudrais d'abord parler des deux comédiens, qui sont Michael Caine dans le rôle de Milo Tindall et Laurence Olivier dans le rôle de Andrew Wack, qui, je veux pas, ce serait banal de dire que c'est des grands acteurs, mais je pense qu'on peut le redire, quoi. Ce sont deux immenses acteurs. Et Michael Caine, c'est rigolo, parce qu'il y a beaucoup de jeunes cinéphiles qui l'ont redécouvert âgé. Michael Caine, notamment dans les films de Christopher Nolan, c'est devenu un peu son acteur fétiche, hein. Il est dans quasi tous ses films. Et pour ceux qui connaissent Michael Caine de ce prisme-là, je vous encourage à aller voir Le Limier, où vous verrez sa carrière a démarré il y a bien, bien longtemps, et qu'il était déjà tout aussi incroyable à l'époque. Et il y a un duel entre les deux, une alchimie entre les deux qui est stupéfiante.
Pourtant, ils n'avaient jamais joué ensemble.
Non.
Et Laurence Olivier n'était pas dans sa meilleure forme.
Hein. Oui, on est vers la fin de sa carrière.
C'était un immense acteur shakespearien, oui. Un acteur de théâtre au départ. Il avait créé un théâtre, le National Theatre, le Théâtre National, dont il a été renvoyé juste avant le tournage du Limier. Donc, il n'était pas du tout en forme psychologiquement. Il avait des trous de mémoire. Il n'arrivait pas à retenir son texte. Donc, ça a été assez difficile quand même comme tournage. Il avait aussi pas mal de médicaments. Enfin, oui. Alors, pour en rajouter, Mankiewicz lui-même, il avait à ce moment-là d'importantes douleurs dorsales. Il avait été victime d'une hémorragie à la suite d'un accident qui est survenu lors du tournage. Il s'est retrouvé en fauteuil roulant. Donc, ça a été un tournage quand même assez épique. Mais ça en valait la peine puisque ça a accouché d'un chef-d'œuvre.
Oui, et moi je vais rajouter, parce que les deux n'avaient jamais joué ensemble, comme tu l'as dit. Et alors Michael Caine, il n'était pas inconnu. Hein, il avait fait quand même quelques rôles, un pont trop loin par exemple, où il était apparu
dans Frenzy. Dans Frenzy aussi, Hitchcock.
Oui.
Et d'ailleurs, le scénario, Frenzy, c'était le scénario d'Anthony Schaeffer, donc,
oui,
qui a créé la pièce Le Limier.
Le Limier, oui, qui adaptera sa propre pièce pour le film. C'est lui qui a écrit le scénario. Et en fait, ils vont se retrouver ensemble tous les deux. Et Michael Caine racontera des années plus tard que y a une scène précise dans le film que j'ai pas envie de préciser, mais à un moment donné il y a quelqu'un qui porte un masque de clown dans des escaliers, voilà, pour situer le truc. Je veux pas en dire plus, mais oui, c'est une scène assez forte à ce moment-là. Et quand il tourne la scène, et quand il fait cut, Laurence Olivier regarde Michael Caine et lui dit j'avais un collègue et je me rends compte que en fait j'ai un partenaire. Et Michael Caine dit que c'est une des plus belles phrases qu'on lui a dit professionnellement parlant. Voilà. Donc il y a une alchimie qui s'est faite tout de suite. Et tu me dis qu'il n'était pas en forme, Laurence Olivier. Je trouve que c'est fou parce que ça se voit pas du tout. Son personnage est extrêmement énergique. C'est-à-dire que c'est un personnage qui en fait des caisses tout le temps. Je dis, c'est pas l'acteur qui en fait des caisses, c'est le personnage qui en fait des caisses. Qui est tout le temps dans une sorte de jeu permanent, dans une sorte de représentation permanente. C'est un personnage qui a un ego extrêmement élevé, c'est un écrivain de romans policiers un peu à la, pas vraiment l'Agatha Christie, parce que Agatha Christie, qui était plutôt une autrice qui avait un mépris, qui parlait beaucoup de lutte des classes dans ses livres, et là on voit bien que Andrew Wack, c'est quelqu'un qui au contraire met en valeur un peu plutôt des classes sociales assez aisées. Et finalement, le film est en fait une vraie critique à la Agatha Christie des luttes des classes. Et il y a toute une ambiance, d'ailleurs, la Agatha Christie, je trouve, dans l'ambiance, dans la mise en scène, dans les décors.
Les automates mécaniques, le masque de clown, ça met quand même assez mal à l'aise le spectateur.
Hein. Oui.
Il y a vraiment, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui est-ce qui se cache derrière ce masque? Il est mort ou il n'est pas mort?
Qui est mort, qui n'est pas mort? Il y a des tas de choses.
Chaque fois, chaque plan qu'on voit, chaque scène qu'on voit, elle est remise en doute par la scène suivante, quoi.
Oui.
Et ça, ça, même le film, c'est plus, il est assez long, je crois.
Il fait 2h20.
Ouais, 2h20, mais moi, pour moi, ça dure une heure.
Oui,
je veux dire, psychologiquement, on est tellement soufflé.
Bah oui, parce qu'on est, on sait jamais sur quoi on va s'attendre. Alors du coup, on voit pas le temps passer parce que il joue sur nos attentes énormément. Enfin, il y a un jeu du suspense qui est très fin, je dirais, parce qu'il est pas, c'est, je dirais pas que sa mise en scène se joue énormément, c'est pas une mise en scène Hitchcockienne, tu vois, par exemple, je trouve, dans son suspense. Mais il y a un vrai suspense qui se dégage dans la façon dont il va filmer les personnages à l'intérieur du décor de cette espèce de manoir, qui, à mon sens, est le troisième personnage du film, en fait, ce manoir. Troisième ou quatrième, parce qu'il y a un automate qui s'appelle Joey, qui est très important dans le film aussi, qui est vraiment montré comme personnage et qui est une invention de Mankiewicz, d'ailleurs, cet automate n'était pas dans la pièce. Vous verrez, vous comprendrez quand vous verrez le film. C'est une espèce de, c'est un automate habillé en marin, voilà, et qui a une place assez qui va prendre une place assez importante dans le film, et notamment une place assez importante dans la mise en scène. Il y a une façon dont il va filmer tous les automates, tous les marionnettes, tous les jouets qui sont dans cette maison, comme une sorte de regard qui va y avoir sur eux, un regard d'aplomb qui va y avoir sur eux. Et là, je trouve la mise en scène fine, discrète, mais extrêmement impressionnante. C'est ça que je trouve dans L'Olivier. C'est-à-dire que c'est absolument pas une mise en scène tape à l'œil, mais elle est là, la mise en scène. Elle est pensée sur chaque plan. Et voilà, c'est en ça que je trouve le film assez extraordinaire.
Voilà. C'est pas un hasard. Le prix qu'il a eu s'appelle le prix Edgar Allan Poe pour le meilleur scénario. Donc, pour ceux qui lisent un peu Edgar Allan Poe, on comprend tout de suite que c'est ce prix-là qu'il méritait, ce film. Hein.
Oui.
Alors, ce qui est rigolo aussi, c'est qu'en fait, il y a eu un remake en 2007.
Malheureusement,
Kenneth Branagh. Alors, Kenneth Branagh, pourtant, moi, si je me souviens bien, c'est aussi un grand réalisateur de films inspirés de Shakespeare.
Oui, il a des liens avec Laurence Olivier.
C'est
un fou absolu de Laurence Olivier, Kenneth Branagh, qui lui rendra hommage dans beaucoup de films dans sa carrière. Il l'a même interprété dans My Week with Marilyn, qui racontait le tournage d'un film avec Marilyn Monroe et Laurence Olivier. Je ne sais plus exactement. Bref. C'est un fou absolu de Laurence Olivier. Donc oui, il en a fait un remake.
Alors en fait, c'est marrant parce que dans ce film de Kenneth Branagh, donc Le Limier, c'est Michael Caine qui reprend un rôle, mais le rôle de Laurence Olivier. Donc,
de Andrew Wyke.
C'est pour la petite histoire. Puis par contre, pour ceux qui aiment lire aussi, moi j'avais lu aussi de Tanguy Viel il y a quelques années un roman qui s'appelle Cinéma.
Oui,
et le narrateur, il est complètement obsédé par ce film Le Limier, et il organise toute sa vie autour du film Le Limier. Donc j'invite les gens qui aiment bien la lecture d'aller voir, c'est aux éditions de Minuit, si je me souviens bien, ce roman de Tanguy Viel qui s'appelle Cinéma.
Ouais.
Et puis il y a aussi une chanteuse aussi qui s'appelle Milo Tindall, et donc c'est pas un hasard si elle a pris ce pseudo, parce que c'est vraiment inspiré du personnage Milo Tindall qui est joué par Michael Caine dans le Limier.
Ah, ça, tu me l'apprends. Pourquoi cinéma, le livre de Tanguy Viel, je le savais. Et ça, c'est rigolo parce que, comme quoi les dessins t'envoient des signes, on avait la même prof d'allemand. c'est ma prof d'allemand qui a dit: ah oui, je connaissais quelqu'un qui a écrit un livre sur, qui parle d'un film qui s'appelle Le Limier, et j'avais vu le film à l'époque.
Ah, ouais.
C'est marrant comme le destin t'envoie des signes, c'est rigolo.
Voilà, ouais.
Bref, ça, je savais pas, je l'apprends. Mais je comprends, parce que moi, Milo Tindall, c'est mon personnage de cinéma préféré, quoi. C'est, vous verrez, quand vous verrez le film, c'est un des personnages qui a la plus grande évolution, je trouve. Enfin, d'évolution d'écriture. Et c'est un peu, je veux pas en dire plus de pourquoi je l'aime, parce que ça dévoilerait certaines choses. Mais je trouve que c'est un grand personnage, du film. Donc, je comprends totalement que ça puisse inspirer, des artistes.
Jusqu'à maintenant, quoi. Encore une fois, parce que je pense que les gens qui ont la chance d'avoir vu, de voir ce film, ils en ressortent pas intacts.
Exactement.
Il y a quelque chose qui vous marque à vie. Enfin, pour moi, c'est une évidence. Ce film, Le Limier, on l'a encensé avec des superlatifs qu'il mérite amplement. C'est évident qu'il y a toujours la campagne de presse qui se fait sur certains films. Et puis, quand on voit les compliments, puis qu'on voit le film, on peut être déçu. Là, ça le mérite. Enfin, je veux dire, quand on marque bouleversant, chef-d'œuvre, etc., etc.,
c'est vraiment
moi, je suis d'accord à 110% avec les adjectifs qu'on peut donner. Ils ne sont même pas assez forts, tellement le film, c'est vraiment un grand, grand, grand,
c'est
grand
pour
film.
Ça, moi...
Et c'est quelque part un scandale pour moi que, quand on se passionne de cinéma, moi, ce film-là, il y a très 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 longtemps que je l'ai vu. J'avais envie de le revoir et il n'y avait pas possibilité de le revoir. C'est quelque chose, franchement, c'est comme La Maman et la Putain, par exemple, Jean Eustache, oui. qu'on a mis des années à.
Alors,
des
y dizaines avait, d'années à attendre. Il y avait des raisons, on savait pourquoi.
Oui, voilà, mais c'est y a, une raison familiale, voilà, c'est mais ça. C'est dommage qu'on prive des secteurs entiers du, oui. de la culture. Voilà, c'est vraiment dommage.
Oui, ça m'a mis en colère pendant très longtemps. C'est-à-dire que je pouvais pas me procurer mon film préféré en support physique. Pour un cinéphile, c'est terrible d'avoir un de ces films de chevet chez soi facilement et essayer de se le procurer. De façon des fois pas très légale, hein. faut le dire, mais bon, quand tu arrives pas à avoir un film, à mon sens, le téléchargement des fois peut permettre ça, mais là c'est vraiment chouette, voilà, qu'il y ait cette ressortie, et j'aimerais vraiment que le film devienne beaucoup plus culte, parce qu'effectivement, tu le dis très justement, moi, le film, je le conseille à peu près à toutes les personnes un peu intéressées au cinéma que je croise quand j'en ai l'occasion, et quand ils voient le film, j'ai jamais eu un retour négatif, ou même un retour moyen. À chaque fois que je conseille le film, les gens se prennent une claque. Donc moi, j'aimerais vraiment que le film devienne plus culte qu'il ne l'est. Moi, je trouve qu'il n'est pas encore un film culte, quoi.
Alors en plus, si vous ne l'avez pas vu, vous êtes à Blois ou dans la région de Blois, vous allez avoir l'occasion de le voir sur un grand écran, ouais. dans une belle salle comme les salles des Lobbies. Il ne faut pas y aller, il faut y courir. Sinon, vous allez rater quelque chose de merveilleux. Alors bon, évidemment, moi, j'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait le voir aussi sur un DVD, mais entre l'écran de télévision, aussi grand soit-il, et un écran de cinéma, toute la salle qui vous... Enfin, toute l'ambiance qui vous enveloppe et tout ça, non, ça allait voir au cinéma, c'est...
Bah ouais. Moi j'y serais, hein. C'est-à-dire que j'ai vu plein de fois, mais alors moi je ne l'ai pas encore vu en salle le film, mais j'y serais, hein. Voilà.
Oui, c'est
et, voilà. Et tu parlais tout à l'heure moi je veux rebondir un peu sur le remake, parce que c'est un film qui me met très en colère, le remake de Kenneth Branagh, parce que Kenneth Branagh, c'est un réalisateur que j'apprécie assez moyennement déjà de base, je trouve pas qu'il a fait beaucoup de grands films. Ses adaptations sont que c'est pire, elles sont sympathiques, mais elles sont très fidèles et elles manquent une certaine créativité, je trouve. Que Laurence Olivier avait réalisé aussi des adaptations de Shakespeare, si je ne me trompe pas. Et le remake du Limier est vraiment terrible. Déjà, il fait une heure de moins. Le film fait 1h17. Donc, il y a tout un acte qui est supprimé, en fait, du film. Et voilà, à mon sens, ce qu'il en a fait, et il n'a rien compris au script. Et pourtant, le script est réécrit par Harold Pinter, qui est un grand dramaturge. Et c'est son dernier. Et qui a écrit des pièces et qui a écrit des films pour le cinéma aussi. Et ça sera son dernier script d'ailleurs, il meurt quelques mois après la sortie du film, et pourtant un réputeur que j'aime vraiment beaucoup, je vous conseille de regarder The Servant de Joseph Losey, dont il a écrit le script, c'est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, on revoit un peu sa patte, hein, parce qu'il va y rajouter de l'homo-érotisme dans le film, qui est un peu sa patte à lui. C'est vrai qu'il s'est présent dans beaucoup de ses films, ce côté-là, dans beaucoup de ses scripts, ce côté-là, Harold Pinter, mais qui, à mon sens, a rien à faire dans Le Limier. C'est très étrange. Et malgré le fait que j'aime Harold Pinter, et que j'aime Michael Caine qui, comme tu l'as dit, joue le rôle d'Andrew Wack, et c'est Jude Law qui fait le rôle de Milo Tindall, Jude Law, des fois ça marche, des fois ça marche pas, et là pour moi ça marche pas, et voilà, bref, je déconseille très fortement le remake du Limier, qui était pendant très longtemps était la seule version du Limier qu'on pouvait trouver en support physique, donc voilà, quand vous tapez le Limier sur internet, prenez pas le film le plus récent, hein, voilà. Ne vous trompez pas de film, surtout.
Ça serait dommage. Ouais.
Ça serait vraiment dommage. Parce que j'en ai connu, hein, des gens qui sont trompés. Quand je leur ai conseillé Le Limier, ils ont vu le mauvais film. Ça m'est arrivé, c'est pour ça.
C'est vrai que les chefs-d'œuvre, que ce soit King Kong, des films d'Hitchcock qu'on peut être pris.
Oui.
Moi, je pense que c'est indépassable. C'est pas possible de dépasser ces films-là, quoi. On peut faire des choses pas mal, intéressantes, mais ça vaudra jamais l'original.
Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Il y a par exemple, je dirais The Thing de John Carpenter, qui est un remake qui, à mon sens, bien meilleur que l'original, La Mouche de David Cronenberg, qui est un remake du film La Mouche Noire.
Ouais, mais je l'ai pas vu, La Mouche Noire, donc là.
Mais voilà, mais La Mouche Noire, très sympa.
Mais là, on est quand même sur des grands réalisateurs, mais là, aussi.
Oui, tout à fait. Kenneth Branagh qui n'est pas au niveau de Cronenberg, effectivement, je pense. Voilà, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter un peu sur le film.
Encore une fois, courez-y, allez-y, ne ratez pas ça, surveillez votre calendrier, surveillez les affiches, et puis allez voir Le Limier, vous ne le regretterez pas.
Ouais, exactement. Voilà, je ne peux.
Donc, satisfait ou remboursé.
Exactement, cinéphile s'engage. Non, mais croyez-nous, vraiment, je pense sincèrement que vous n'allez pas être déçus. On arrive du coup sur la fin de cette émission, Jean-Claude. Merci
oui,
beaucoup
ça passe vite.
D'avoir été avec moi pour parler de ces deux films.
Avec plaisir.
Voilà, courez aller voir Animal et d'abord qui sort, qui sera au Lobbies à partir de vendredi, et après allez voir Le Limier qui sera au Lobbies à partir du 15 février. Voilà, j'ai pas encore les horaires parce que ça, voilà, ça sera au fur et à mesure, mais ça sera à partir du 15. Checkez le site du cinéma et Lobbies et le site de Cinéphile. Voilà, vous verrez les infos assez incessamment sous peu. Donc à très vite pour notre dans notre émission et à très vite dans nos salles évidemment pour voir ces films. Je vous souhaite de très bons films et une très bonne journée. Au revoir Jean-Claude.
Bonne journée, au revoir.
Au revoir.